Chapitre 8. Retour à Olduvai. Le docteur Stéphane Del Marco se disait souvent que jamais Louis et Marie Liquet n'auraient reconnu cet endroit, alors même qu'ils ne se trouvaient qu'à une dizaine de kilomètres de celui où ils avaient découvert nos premiers ancêtres, 5 siècles auparavant. Le réchauffement général de la planète et la petite ère glaciaire, interrompue grâce au miracle de la technique, avait transformé le paysage et complètement bouleversé son biotope. Chênes et pins, pourtant, continuaient de lutter, comme s'ils cherchaient à voir laquelle des deux espèces survivrait au changement climatique. En cette année 2513, il semblait impossible, après les fouilles systématiques des anthropologues, de découvrir encore quelque chose à Olduvai. Cependant, de récentes crues subites, qui n'étaient plus censées se produire, avait récemment remodelé la région et emporté la terre sur plusieurs mètres de profondeur. Del Marco avait profité de l'occasion, et là, à la limite du rayon d'action des scanners, se trouvait quelque chose d'absolument sidérant. Il avait fallu plus d'une année de lente et prudente excavation pour atteindre l'image fantomatique et apprendre que la réalité était plus étrange encore que ce qu'il avait imaginé. Les machines-robots avaient rapidement déblayé les premiers mètres de terre avant d'être relayées par les traditionnels étudiants esclaves en doctorat. Ces derniers étaient aidés par une équipe de 4 Kong que Del Marco jugeait plus pénible que réellement utile. Mais les étudiants, eux, adoraient ces gorilles améliorés par le génie génétique qu'ils traitaient comme des enfants retardés et adorés. On disait même que leur relation n'était pas toujours complètement platonique. Cela dit, seuls les êtres humains se chargeaient des derniers centimètres, souvent à l'aide de brosses à dents. À présent, tout était terminé, et Howard Carter, à la vue des premiers éclats de l'or dans la tombe de Toutankhamon, n'avait pas dû éprouver pareille stupéfaction. Del Marco avait compris qu'à dater de ce jour, les croyances et les philosophies de l'homme seraient irrévocablement bouleversées. Le monolithe se présentait comme le double exact de celui qui avait été découvert sur la Lune 5 siècles plus tôt. Et l'excavation autour avait presque la même taille. Comme AMT-1, il ne reflétait absolument pas la lumière, absorbant la luminosité aveuglante du soleil d'Afrique et la pâle clarté de Lucifer avec la même indifférence. En conduisant ses collègues, les directeurs des 5 ou 6 plus grands musées du monde, 3 éminents anthropologues et les présidents de 2 empires médiatiques, au fond du puits, Del Marco se demandait si ces hommes et ces femmes tellement célèbres étaient déjà restés aussi longtemps silencieux. Mais tel était l'effet de ce parallélépipède noir sur tous les visiteurs lorsqu'ils se rendaient compte de ce qu'impliquaient les milliers d'objets rassemblés tout autour. Car il y avait là un véritable trésor archéologique. Outils en pierre grossièrement taillés, os de toutes sortes, certains d'animaux, d'autres d'êtres humains, le tout soigneusement disposé. Pendant des siècles, non, des millénaires, des créatures animées seulement des premières lueurs de l'intelligence étaient venues déposer là leurs pitoyables offrandes en tribut à une merveille située très au-delà de leur entendement. Et d'une autre, s'était souvent dit Del Marco. Pourtant, 2 choses lui semblaient désormais évidentes, bien qu'il doutât qu'on en apporte un jour la preuve. D'abord, c'était ici, dans le temps et dans l'espace, que l'espèce humaine était née. Ensuite, ce monolithe était le premier de la multitude de dieux.